Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, le combat de Marie-Rose. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Alexis de la Fontaine. Rédactrice en chef, Isabelle Clairac. Bonne écoute.
Ce sont elles.
Oui. Marie-Agnès Cordonnier, Françoise Bruyère, ce sont deux autostoppeuses belges qui disparaissent en août 84 près de Mâcon. Sylvie Aubert, 23 ans, 86. On retrouve son corps dans une rivière, elle a été étranglée. Christelle Maïri, c'est la fille de Marie Pichon, 16 ans. On la retrouve poignardée dans une cave au Creusot, décembre 86. Août 87, Marthe Buisson, elle a 16 ans. On la retrouve le crâne fracassé au bord de la Cis, près de Mâcon. Nathalie Maire, la même année, elle a 18 ans, battue à mort sur l'aire de Saint-Albin. C'est toujours sur la Cis. Carole Soltysiak, la fille de Betty, elle n'avait que 13 ans. Elle a été violée, poignardée à Montceau-les-Mines, novembre 1990. Christelle Blétry, décembre 1996. Mars 97, menottée, bâillonnée, Virginie Bluzet, 21 ans, on la retrouve à Verdun-sur-le-Doubs. Et deux ans plus tard, Vanessa Thielon, 17 ans, on la retrouve sur les berges de la Saône. Elle a été battue à mort. Quand on entre, Rachid, dans les années 2000, aucun de ces crimes n'est encore résolu.
10 crimes de jeunes filles en 15 ans dans le même coin et personne ne fait le rapprochement? C'est pas un tueur en série, ça?
Alors, on ne sait pas si c'est un tueur en série, mais en tout cas, il y a beaucoup de similitudes entre certains de ces meurtres. Le problème, c'est que certains ont été commis en zone police, d'autres en zone gendarmerie, que souvent des magistrats différents dans différentes juridictions ont été saisis. Et les premiers à faire le rapprochement, ce sera l'association Christelle et ses avocats, Didier Seban, Corinne Herman.
Le combat de Marie-Rose devient donc un combat collectif. Ses mères, unies par la même souffrance, veulent que la justice relance les enquêtes sur les meurtres de leur fille et rouvre les dossiers fermés.
Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
Je voudrais qu'une cellule soit mise en place, une cellule policier avec des juges. Mettons tous les moyens humains. Et moi, là, c'est vraiment un grand coup de cœur parce que je ne veux plus attendre.
Ses sœurs de combat, comme Marie Pichon, dont la fille a été tuée en 86, ne peuvent plus attendre non plus.
Marie Pichon, mère de Christelle Maïri.
S'occupait pas de nous parce qu'on était des petits gens. Ce que j'ai toujours dit. On est dans un monde ouvrier, on est simple, on est des petits gens par rapport aux gens importants. Ils n'avaient rien à faire de ce qui nous arrivait.
Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
Si on ne remue pas la justice, si on ne remue pas les enquêteurs, si on ne remue pas les juges d'instruction, si on ne remue pas le ministère de la justice, on n'arrivera pas à résoudre ces dossiers.
Alors, en 2001, 5 ans après la mort de sa fille, Marie-Rose Blétry et l'association Christelle font appel à deux avocats parisiens. Corinne Herman et Didier Seban, les spécialistes du cold case en France. Le duo s'est fait remarquer dans l'affaire du tueur en série Émile Louis.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie-Rose Blétry.
Aucun crime n'est une cause perdue, jamais. Nous, on est sûrs que lorsqu'on prend un dossier, il n'y a aucun dossier qui résiste à une enquête sérieuse et complète, aucun.
Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry.
Je me rappelle de ce discours de Marie-Rose me disant « S'il vous plaît, essayez de résoudre une affaire, ça va redonner l'espoir ». Et elle ne disait pas la sienne. Une de ces mères de jeunes filles assassinées.
Dès lors, les familles de l'association Christelle passent leur week-end à vendre des brioches, du muguet, des coloquins. Elles organisent des bals et des lotos dont les bénéfices financent la lutte. Elles alertent la presse, contactent les élus et montent à Paris plaider leur cause au ministère de l'Intérieur ou de la Justice. À chaque rendez-vous, la même demande, le même cri du cœur. Une cellule d'enquête, des moyens supplémentaires et l'interdiction de détruire les scellés.
Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
Encore une fois, on rentrera à Blanzy en disant bah, écoutez, voilà, on n'a encore pas les moyens, il faut encore attendre, donc forcément déçu.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie-Rose Blétry.
C'est des combats tellement lourds, tellement difficiles. On ne combat pas les criminels, on combat l'institution. Et lorsque Marie-Rose a compris ça, on pouvait faire des choses très intéressantes.
Plus de 150 personnes marchent dans les rues de Chalon aux côtés des familles des victimes.
Je profiterai de ce moment de parole pour solliciter de nouveau Nicolas Sarkozy, qui reçoit beaucoup de victimes, beaucoup de familles, on le voit. Mais nous, l'association Christelle, on est oubliés.
Marie Pichon, la mère de Christelle Maïri.
Quand elle a dit une chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Il faut que ça marche. Il faut des réponses, il faut que ça bouge, il faut qu'on voilà, se laisse pas faire. Elle a raison, d'ailleurs.
Marie-Rose, c'est quelqu'un qui est transcendé par son combat, totalement transcendé, qui est allé explorer des limites d'elle-même. Je pense qu'elle ignorait, qu'elle n'imaginait même pas.
Après plusieurs années de lutte, l'association obtient enfin le rapprochement des dossiers auprès de deux juges du tribunal de Chalon-sur-Saône. Mais pas encore la création d'une cellule d'enquête. Une demi-victoire donc. Mais l'institution judiciaire a été bousculée et Marie-Rose galvanisée.
Je pense que c'est les nerfs qui m'ont tenue pendant toutes ces années parce que ça me mettait en colère. Et c'est cette colère qui m'a fait aussi avancer de ne pas baisser les bras.
Dominique, cet espoir est récompensé en 2011.
Oui, cette année-là, une première affaire portée par l'association va être résolue. 25 ans après le meurtre de Christelle Maïri, c'est cette jeune collégienne qui avait été retrouvée assassinée dans une cave du Creusot, dont la maman, Marie Pichon, est devenue une amie de Marie-Rose Blétry. 25 ans après, un homme est arrêté, mis en examen. Il s'appelle Jean-Pierre Murat. Il va être condamné en 2016 à 20 ans de prison.
Une première victoire qui permet d'en espérer d'autres.
Qui donne un fol espoir à Marie-Rose Blétry et qui renforce encore sa détermination pour que soit retrouvé et arrêté l'assassin de sa fille.
C'est l'arrivée d'une nouvelle juge et d'un nouveau policier à la PJ de Dijon qui va donner un coup de fouet aux enquêtes. Ce policier, c'est le brigadier-chef Raphaël Nedilko. Après avoir retrouvé le tueur de la petite Maïri, il s'attaque à celui de Christelle Blétry. L'homme est un ancien du 36, du genre doué, méticuleux, obstiné.
Brigadier-chef Raphaël Nedilko, de la police judiciaire de Dijon.
Tout ce qui est possible de faire humainement ou policièrement doit être fait, donc il est toujours possible de sortir un colquais, quelle que soit son ancienneté. La première chose qui me marque quand je reprends le dossier de Christelle Blétry, c'est que contrairement au dossier de Christelle Maïri, j'ai encore des scellés.
Marie-Rose Blétry, la mère de Christelle Blétry.
J'étais convaincue qu'on retrouverait l'assassin de Christelle grâce aux scellés.
Ces scellés, ce sont essentiellement les vêtements de Christelle. Cela fait 15 ans qu'ils dorment à la cave du palais de justice de Chalon-sur-Saône. Ils ont déjà été expertisés 3 fois, sans résultat.
Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry.
À chaque fois, il y a un espoir, c'est des montagnes russes. Ça monte, ça descend, on se dit on va peut-être avoir la solution. Et puis on ne l'a pas, et puis la justice nous dit ben, écoutez, on a déjà fait beaucoup, ça suffit.
Maître Corinne Herman, avocate de Marie-Rose Blétry.
Je ne comprends pas et je ne supporte pas qu'on abandonne des victimes qui sont des citoyens français qui doivent avoir justice.
Commandant Yves Carry, police judiciaire de Dijon.
Il y a un coup derrière, il y a un coup. Donc c'est ce qui fait aussi hésiter la justice à réinvestir une 4e fois sur l'expertise des judiciaires.
Une 4e expertise coûterait 200 000 euros si tous les scellés étaient envoyés au laboratoire. Beaucoup trop cher.
C'est la justice qui crée ces dossiers anciens, ces cold cases. C'est pas les victimes, faut pas se tromper de combat. Elle est fautive de la situation.
On ne devrait pas parler d'argent à une famille qui a perdu un enfant dans des conditions dramatiques. J'ai dit maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et je vous assure que j'ai craqué à ce moment-là. Et j'ai dit, ça suffit. Maintenant, les vêtements de ma fille seront analysés.
L'appel de Marie-Rose et de ses avocats finit par être entendu par la juge d'instruction en 2013.
Maître Didier Seban, avocat de Marie-Rose Blétry.
On va enfin obtenir que la juge dise, parce qu'on a fait un tel scandale médiatique, parce qu'on ne peut plus nous dire, bah non, on n'a pas les moyens, la juge dise, banco.
Les scellés seront donc une nouvelle fois expertisés, mais pas tous. Pas question que la note du labo dépasse 40 000 euros. Le prix d'une vérité très incertaine.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Je me souviens parfaitement du jour où on est descendu dans le local à sceller, de façon à les compter, à les décrire, à les inventarier, à tout noter dans un grand tableau, et surtout à les classer par ordre de pertinence et de priorité.
Le policier et la juge d'instruction sélectionnent donc les affaires de Christelle les plus intimes. Culottes, soutien-gorge, chaussettes, pantalons, pulls et sac à main.
Personnellement, je n'y crois pas. Cela dit, la science a fait des progrès, donc pour moi, tout espoir est permis.
Dominique, la juge désigne un laboratoire qui n'a encore jamais travaillé sur l'affaire Blétry.
Oui, le laboratoire du professeur d'Outremeupuiche. Les premières expertises s'étaient concentrées essentiellement sous les bras du blouson que portait Christelle et à l'arrière de ses genoux, pensant que son assassin aurait pu déplacer son corps et le traîner. Là, le professeur d'Outremeupuiche va faire un quadrillage systématique de certains vêtements de Christelle et un prélèvement dans chacun de ces petits carrés. Alors, c'est beaucoup plus précis, mais ça coûte aussi beaucoup plus cher.
Et pour quel résultat ?
Pour un résultat magnifique, parce que ces expertises vont permettre de trouver un ADN masculin sur plusieurs vêtements que portait Christelle ce soir-là. Un seul et même ADN masculin, des cellules épithéliales de la peau, qu'on retrouve sur le sac à main, le sous-pull et une chaussette de Christelle. Mieux encore, on isole cet ADN dans des traces de sperme qui ont été retrouvées sur eux et à l'intérieur du jean que portait Christelle ce soir-là, sur son soutien-gorge et sur sa culotte.
Ce qui signifie que Christelle s'est déshabillée et qu'en 1996, le légiste est passé complètement à côté du caractère sexuel de ce meurtre.
Oui, ça veut dire que le légiste s'est complètement planté. Ça veut dire aussi que 17 ans plus tard, la maman de Christelle, Marie-Rose Blétry, va en plus découvrir que sa fille a été violée.
Et aussitôt le résultat connu, la juge envoie cet ADN au FNAEG.
Ouais, et là c'est fabuleux, Rachid, parce que ça matche. L'ADN est déjà connu par le fichier national automatisé des empreintes génétiques. C'est celui d'un homme de 54 ans. C'est lui, il s'appelle Pascal Jardin.
Pascal Jardin, un inconnu dans l'enquête Blétry. Les policiers de Dijon ont entendu des dizaines de suspects, mais lui, ils ne l'ont jamais croisé. En revanche, leurs collègues de Chalon-sur-Saône, à une heure de route au sud, ont déjà eu affaire à lui, 10 ans plus tôt. C'était en décembre 2004. Ils l'ont fiché à la suite d'une tentative d'agression sexuelle dans un quartier HLM.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, de la police judiciaire de Dijon.
Pascal Jardin se présente au domicile d'une jeune femme qu'il choisit un peu au hasard sur une sonnette en banane immeuble.
Commandant Yves Carry de la police judiciaire de Dijon.
Et là, il va se présenter comme plombier envoyé par l'organisme HLM afin de faire des vérifications.
Ce jour-là, la jeune femme n'est pas seule. Son compagnon est également présent dans l'appartement. Pascal Jardin explique alors qu'il repassera, ce qu'il fait 10 jours plus tard.
Cette jeune femme ouvre la porte à Pascal Jardin. Il pénètre et là, il lui dit, il faut que je fasse des vérifications. Je vous invite à aller dans la salle de bain et faire couler l'eau. Moi, je suis dans la cuisine.
Pendant ce temps-là, il en profite pour se déshabiller. Il se met en slip. Il glisse un couteau dans son slip et il va à sa rencontre. En l'apercevant, cette jeune femme hurle. Le compagnon, qui était resté caché dans la chambre parce qu'il avait des doutes, se précipite alors pour lui porter secours et porte plusieurs coups de poing au visage de Pascal Jardin et parvient à le maîtriser.
Jardin, le faux plombier, est interpellé quelques minutes plus tard par la police, en slip-chaussettes, le visage en sang. Au cours de sa garde à vue, il explique qu'il ne voulait faire aucun mal à sa victime. Il voulait juste se venger d'une autre femme. Car depuis des mois, ce responsable logistique en produits surgelés subit les humiliations quotidiennes de sa supérieure hiérarchique. Il n'en peut plus. Il a craqué.
Maître Damien Varlet, avocat de Pascal Jardin.
Cette colère qu'il avait contre cette supérieure hiérarchique avait été en quelque sorte reportée, déplacée sur celle qui va devenir sa victime au moment des faits.
Docteur Daniel Zaguri, expert psychiatre.
Il a besoin de passer d'une posture d'impuissance à une posture de toute puissance, d'une posture d'humiliation à une posture de domination, de terrasser en quelque sorte l'image féminine. Il y a quand même un mode opératoire qui est bien maîtrisé. Donc, il y avait là beaucoup d'éléments pour attirer l'attention, pour servir d'alerte sur le fait que peut-être il y avait eu d'autres faits avant. Et en tout cas, sur le fait qu'il présentait une réelle dangerosité criminologique.
Difficile à l'époque de faire le rapprochement entre cette tentative d'agression à domicile, en plein jour, et le meurtre de Christelle Blétry, 8 ans plus tôt, à 50 km de là, en pleine nuit. Condamné à 1 an de prison ferme, Jardin est libéré 8 mois plus tard, en juillet 2005.
À sa sortie de prison, lorsque Pascal Jardin n'a quasiment plus rien, plus de femmes, plus d'emploi, il va se reconstruire. Il va retrouver une nouvelle compagne, qu'il va d'ailleurs épouser. Il va déménager, il va quitter la région qui était la sienne pour aller du côté des Landes. Il va retrouver un nouvel emploi. C'est quasiment une vie nouvelle qui commence pour lui.
Ensuite, Pascal Jardin n'a jamais refait parler de lui. Jusqu'à ce qu'en 2014, son ADN le trahisse.
Un profil de prédateur, ce Pascal Jardin. Pour le policier Nedilko, la piste sent bon. Maintenant, il va falloir trouver comment sa route a pu croiser celle de Christelle.
Dans le plus grand secret, Raphaël Nedilko retrace minutieusement le parcours de vie du suspect. Première découverte. À l'époque du meurtre, Pascal Jardin vivait à Blanzy, à 2 kilomètres à peine de chez Christelle.
Brigadier chef Raphaël Nedilko, police judiciaire de Dijon.
Le schéma de déplacement de Pascal Jardin, aussi bien pour ses activités personnelles que ses activités professionnelles, pouvait se superposer avec le schéma de déplacement de Christelle Blétry. Le soir des faits, on perd la trace de Christelle Blétry à l'endroit même où Pascal Jardin passait pour rentrer de son travail.
Encore plus intéressant, en interrogeant Marie-Rose, Raphaël Nedilko fait une découverte capitale à propos du pantalon de Christelle.
Elle venait tout juste de l'acheter avec l'argent de ses étrennes. C'était donc la première fois qu'elle portait ce pantalon-là le soir de sa mort. Concrètement, Pascal Jardin n'a pu laisser son ADN que le soir du meurtre de Christelle Blétry.
Cette fois, tout y est. Il faut aller chercher le bonhomme. Direction les Landes. Le 9 septembre 2014, à 6h du matin, les policiers frappent à la porte de Pascal Jardin, à Réjon. Il vit là, à l'écart du village, avec sa deuxième épouse et ses belles-filles.
Commandant Yves Carry, police judiciaire de Dijon.
Tout de suite, on remarque qu'il est porteur d'un couteau à la ceinture. Il ne bouge pas, nous l'interpellons sans problème, sans force, il se laisse neutraliser sans problème. Nous lui passons les menottes et Il semble bizarrement peu surpris de nous voir.
Il collabore ouvertement, très calmement, avec le sourire, très poliment.
Pascal Jardin n'est pas ramené tout de suite en Bourgogne. Il va être interrogé dans les locaux de la PJ de Bordeaux. Mais c'est le brigadier-chef Nedilko qui va conduire l'interrogatoire.
Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'un meurtre, celui de Christelle Vitry, pour lequel j'ai été.
Malgré la gravité des soupçons qui pèsent sur lui, Pascal Jardin, assisté d'une avocate commise d'office, est toujours aussi serein.
Connaissiez-vous Christelle Vitry ? N'a-t-il pu avoir échange contre vous ?
Non, jamais.
Brigadier-chef Raphaël Nedilko, de la police judiciaire de Dijon.
C'est une sorte de partie d'échec qui s'établit entre lui et moi. Il positionne ses pions de défense, je positionne mes pions d'attaque, mais je sais très bien que tout ce qu'il me dit, ce ne sont que des mensonges. Et là, je décide de passer à l'attaque.
Je vous informe que, suite à une expertise des vêtements que portait Christelle Vitry au moment de sa mort, on y retrouve votre ADN. Est-ce que vous pouvez réagir ?
Ah ben non, je ne peux pas réagir. Je suis incapable de vous dire pourquoi.
Je vous exhorte à me dire la vérité, Monsieur Jardin.
Je ne peux pas vous dire la vérité puisque je vous l'ai dit. Je ne connais pas cette fille. Et j'aurais rencontré où ?
C'est à vous que je pose la question.
Mais je n'y ai pas rencontré, j'en sais rien tout. Si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si éventuellement j'ai pu la rencontrer, c'est au bureau de tabac ou dans un bistrot, c'est tout.
Puis je vais vous laisser vous enfoncer.
Ce qui est vraiment phénoménal chez Pascal Jardin, c'est qu'il ne bouge pas d'un millimètre. Il reste droit dans ses bottes.
Allez, on se motive.
Non, mais
et on dit la vérité à monsieur l'inspecteur qui est devant.
Je vous dis que je ne connais pas cette fille.
Je vous dis...
Après 4 heures de dénégation, Pascal Jardin est reconduit dans sa cellule pour la nuit. Au petit matin, le policier affine sa stratégie. Il extrait Jardin de sa geôle et lui offre café, cigarillos et pain au chocolat. Puis il engage la conversation, tranquillement, dans la cour du commissariat.
On a un échange humain. On aurait pu être à la limite des amis si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, s'il n'y avait pas des faits aussi graves qui nous opposaient, lui et moi, qui nous mettaient de chaque côté d'un mur. Je savais qu'il avait reçu une éducation chrétienne dans son enfance. Et il est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu faire résonner en lui cette corde sensible, que je n'étais pas là pour le juger, que j'étais là pour l'écouter, que le jugement, c'était pas mon travail. Mais il s'agissait vraiment de toucher la sphère la plus profonde de son humanité et quelque part de sa spiritualité, parce que je voulais qu'il s'ouvre. Et je le regarde un moment dans les yeux et je lui dis de toute façon, pour moi, je n'ai aucun doute. Vous êtes le meurtrier de Christelle Vitry. Je vous le dis en face. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous l'avez tué et comment. Et c'est maintenant.
Le brigadier-chef Nedilko commence alors un troisième interrogatoire. Pascal Jardin a été troublé par sa conversation avec le policier. Et il commence par le remercier.
J'ai la chance d'avoir en face de moi quelqu'un qui sait parler tout simplement. Et ça, je souhaite à tout le monde d'avoir comme tout.
Ensuite, Pascal Jardin revient sur sa soirée du 27 décembre 1996, qu'il raconte en détail. Ce jour-là, il est sorti tard du travail. Il a bu quelques mojitos avec des collègues à Chalon-sur-Saône. Puis il est rentré à Blanzy, où il est arrivé vers minuit et demi.
J'ai croisé cette fille que je ne connaissais pas. Je l'ai obligé à monter. En la tirant avec le sac, et puis vous l'avez monté. Je pense qu'elle a compris ce que je voulais.
Ensuite, Pascal Jardin a pris la direction de la sortie du bourg,
sans écouter Christelle, qui le suppliait de la déposer chez elle.
Puis il arrête le véhicule et il lui fait comprendre ce qu'elle sait déjà, c'est qu'il va lui imposer une relation sexuelle. Cette relation rapide, brutale, en plein milieu de la nuit, prenant fin, chacun se rhabille sans dire un mot. Et à un moment donné, profitant de la baisse de vigilance de Pascal Jardin, Christelle ouvre brutalement la portière et prend la fuite en courant.
Et là, j'ai sorti mon couteau qui était dans la voiture. Et j'ai couru après. Et elle s'est tellement mise à paniquer que j'ai paniqué aussi, puis j'ai dépoussé tellement. Elle était très apeurée. Et moi, j'étais complètement dans un état second, je savais. Mais je suis incapable d'oublier où j'ai donné pour les coups de
poing.
Ouais, le criminel.
La seule chose qu'il m'explique vouloir obtenir au moment où il la frappe, c'est son silence, c'est qu'elle arrête de crier, rien d'autre. Christelle ne crie plus. Il ne reste plus que le silence. Il se contente de revenir à son véhicule, monter à son bord, rentrer chez lui. Là, calmement, comme si après ce défoulement de rage, c'est comme si rien ne s'était passé.
Il est 2h du matin. Jardin se prépare un sandwich et va se coucher près de sa femme. Le lendemain du meurtre, il ira au travail, comme d'habitude, et gardera son secret pendant 18 ans. Après ses aveux circonstanciés, Pascal Jardin s'effondre dans un rare moment de remords.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites Entrer l'Accusé consacré au combat de Marie-Rose. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.